Voilà, je vais commencer avec une réflexion sur la justesse entre justice et miséricorde. Il y a 2 ans, vous savez que c'était l'année de la miséricorde, proclamée par le pape François. Les JMJ ont tourné autour de miséricorde, des milliers, des centaines de milliers de jeunes même ont chanté miséricorde partout dans le monde. Voilà, c'est très bien la miséricorde, mais certains disent « oui, mais il ne faut pas oublier la justice ». Et c'est tout à fait vrai. Et certains estiment que quand on fait trop miséricorde, il n'y a plus assez de justice. Et d'autres estiment que quand on fait trop justice, on oublie la miséricorde. Voilà. Alors, ça c'est un peu la question. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les deux ensemble? Alors, nous avons, Dominique et moi, un peu mis en avant un concept qui n'est pas habituel, qui est le concept de justesse. Et qui nous semble être une réalité psychologique qui est très nécessaire pour peut-être faire le lien entre justice et miséricorde, la justesse. Alors voilà, c'est pas un concept freudien, c'est pas un concept théologique, c'est voilà un truc qu'on a inventé avec notre triangle, les 4 dimensions anthropologiques, et on essaye de mettre ce petit concept sur le banc d'essai hein, de nos cours et de nos débats pour voir si ça marche, pour voir si c'est pertinent. Et jusque maintenant, il semble que ce le soit. Alors, je vais commencer par quelques considérations de type théologique, biblique même, Ancien Testament, Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a de la miséricorde dans la Bible ? Comment est-ce qu'elle se présente? Impossible de tout dire évidemment en quelques minutes, mais je vais quand même pointer 2-3 choses qui me semblent essentielles. Ensuite, je vais faire un petit retour psychologique, je parlerai donc en tant que psychologue sur la question du surmoi. Le surmoi, dans la deuxième topic de Freud, est un concept très important, et donc pour les psychologues, surtout les psychanalystes d'obédience freudienne, avec le surmoi, on a tout expliqué sur la morale. Hein. Alors moi je mets un peu cette chose en question, mais je vais surtout, pas mettre ce concept en question, mais voir la manière différente dont se construit le surmoi chez le garçon et chez la fille. Il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant dans la théorie freudienne, mais il faut aussi dépasser la théorie freudienne parce que Freud est déjà quand même du siècle passé, même du siècle avant, au niveau naissance en tout cas. Alors, la miséricorde, une notion plus complexe que celle de justice. Avec un tableau où vous retrouvez la justesse, justement, au niveau 2, au niveau psychique. Ce qui s'oppose à la justesse, c'est la mauvaise place, l'intrusion, la domination, l'inadéquation, etc. Et enfin, je vous ferai lecture d'une page que je tire d'un bouquin ici, d'une conférence à laquelle j'ai assisté, de quelqu'un qui parle de l'éthique relationnelle du soin. C'est quelque chose qui est un peu à la mode maintenant, caring ethics. Eh bien, je vous en dirai un mot parce que ça va dans notre ligne. Notre ligne, c'est celle d'une éthique relationnelle. Hein. Et ici, c'est même une éthique relationnelle du soin. Alors voilà. Est-ce que Dieu se révèle comme un Dieu miséricordieux dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous savez que le sabbat est très important. C'est le jour où Dieu se repose après 7 jours de création. Et donc, il demande à l'homme, à la femme, aux esclaves, aux animaux même, de se reposer ce jour-là. Donc ça, c'est Dieu qui le demande, mais il le demande pour le bien de l'humanité, même on pourrait dire presque écologiquement, des animaux aussi, etc. On ne fait pas travailler son bœuf hein, le jour du sabbat. Mais le sabbat aussi entraîne l'année sabbatique. Tous les 7 ans, il y a une année sabbatique, la 7e année, et il y a des choses spéciales qui se passent à ce moment-là. Et puis alors, il y a une année sabbatique des sabbatiques, c'est l'année jubilaire, cette fois 749, donc la 50e, on va faire un big, big, gros sabbat, hein, avec encore des choses en plus, pour exprimer la volonté de Dieu sur sa création et sur l'humanité. Alors voilà. Parce que Dieu s'est reposé, dit-on, hein, eh bien l'homme doit respecter le sabbat. Et au bout de 6 ans, on fait une année sabbatique. Que se faisait-il lors de l'année sabbatique? Ben, il y avait toutes sortes de choses au niveau agriculture, mais il y avait notamment une libération des esclaves. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous savez que parmi les Juifs, il y avait des esclaves. Alors, des esclaves étrangers, et ceux-là d'abord le resteraient, hein, puisque ce sont nos ennemis. Il faut aimer son prochain comme soi-même, mais ça veut dire, et donc aimer et détester ses ennemis, c'est clair, hein, ça c'est un petit peu dans le décalogue, dans la loi autour du décalogue, etc., c'est clair. Mais il y avait aussi des esclaves juifs. Alors comment devenait-on esclave quand on était du peuple libre, sorti d'Égypte? Eh bien, lorsque quelqu'un s'endettait un peu trop et qu'il ne parvenait plus à payer ses dettes, Jésus le raconte d'ailleurs dans des paraboles, hein, lorsqu'on ne parvient plus à payer ses dettes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vend par exemple son fils ou sa fille. Et si vraiment on est très endetté, on vend sa femme. Et si on est très très endetté, on se vend soi-même. Et voilà, on est réduit en esclavage. C'était une question justement de créance, hein, de devoir payer ses dettes. Bon, vous imaginez que c'est un système bon, qui est assez bien inventé, évidemment, hein. Comme ça, vous ne contractez pas trop de dettes. Mais si vous en avez fait, eh bien, vous devez vous vendre vous-même, hein, et alors vous devez travailler pour rembourser. Mais justement, il y a une miséricorde. Dieu impose, au bout de l'année, des 6 années, une année sabbatique où il faut libérer tous les esclaves. Tous les esclaves juifs, bien entendu, hein, pas les autres. Hein. Tous les esclaves juifs, parce que le peuple élu est un peuple libre. Et Dieu veut que tous les membres de son peuple soient libres, même s'ils ont fait des bêtises, même s'ils ont dépensé, même si certains ont opprimé injustement quelqu'un, etc., et a réussi à le réduire en esclavage. Non, Dieu veut que, lors de l'année sabbatique, tous soient libres. Et que se passait-il lors de la grande année sabbatique jubilaire? Vous savez que dans l'Église catholique aussi, on fête l'année jubilaire, hein, tous les cas. Eh bien, là, c'était non pas les esclaves qui étaient libérés, puisqu'ils étaient libérés tous les 7 ans, hein, on redevenait libre, mais c'était même les terres qu'on avait achetées à son voisin, et puis certains avaient accumulé beaucoup de terres, et puis d'autres n'en avaient plus, même les terres étaient rendues à leurs propriétaires. Au bout de 50 ans, au bout de 49 ans, toute une année, la société, la macrostructure de la société devait travailler à rendre à chacun sa terre. Ça veut dire surtout par tribu, évidemment, puisque lorsque le peuple est passé en terre promise, Dieu a divisé la terre entre les 12 tribus, à vrai dire entre les 11 tribus, parce que la tribu de Lévi n'avait pas de terre, ils étaient consacrés au service du temple, du culte. Eux, les Lévites, justement, hein, et les prêtres et les Lévites de la 7e tribu n'avaient comme héritage que le Seigneur, comme le chantent les psaumes, hein. Tandis que les 11 autres tribus avaient une terre qui était bien délimitée. Alors il y a des chapitres entiers de la Bible qui vous expliquent les frontières. Hein. Les frontières, voilà, on passe par là, on passe par là. Tout est bien déterminé. Il faut que toutes les terres reviennent à la tribu et aux propriétaires initiaux. C'est quand même extraordinaire comme organisation sociale. Hein. Alors bien sûr, s'il y a des agents immobiliers parmi vous et des gens qui vendent des terrains, ils se disent « Oh là là, mais ça, comment est-ce que ça marche hein ?» Eh bien, ça marche dans le sens où, quand vous achetez une terre juste après une année sabbatique, vous la payez très cher. Quand vous l'achetez juste avant l'année sabbatique, ben, elle est très bon marché, évidemment, puisque vous devrez la rendre après. Donc, les prix commençaient très haut, puis ça décroissait, puis on devait rendre les terres. Voilà, mais je trouve ça magnifique parce que ça veut dire que, quelles que soient les actions des hommes, Dieu instamment remet tous les compteurs à zéro et rembourse toutes les dettes. Enfin, il demande aux hommes de le faire, bien sûr, hein, c'est eux qui doivent le faire. On rembourse toutes les dettes et on repart, voilà, pardonné, sans dette, sans esclave, avec les terres que Dieu avait données au point de départ, et pas les plus malins avec tout et les moins rusés avec plus rien, quoi. Voilà. C'est magnifique, mais évidemment, ça ne marchait pas si bien que ça. Hein. Et c'est pourquoi il y a quelques prophètes qui devaient de temps en temps aller rappeler que chacun doit vraiment libérer ses esclaves. Hein, pas dire oui, on le libère, mais le lendemain, on le récupère. Quoi, hein, non, hein, il fallait vraiment le faire. Hein, parce qu'il y avait toutes sortes de trucs hein, qu'on peut inventer aussi. Hein, pour dire tu es libre, mais tu n'as rien, donc tu reviendras demain parce que. Voilà, etc. Donc voilà, ça c'est très important. Alors comme je vous ai dit, les esclaves qui n'étaient pas juifs, eux, ben, ils étaient esclaves, hein, parce qu'il fallait haïr ses ennemis. Et d'habitude, les esclaves étaient pris par. Après les guerres, on faisait du butin et on ramenait des gens et ils devenaient esclaves. Donc il faut haïr ses ennemis, il faut aimer sa famille. Et donc, ça c'est bien clair dans la tête d'un juif. Hein. Et donc, quand Jésus dit qu'il faut haïr son père et sa mère, ça veut dire qu'il faut inverser la logique. Pas pour l'inverser purement et simplement, mais pour dire même vos ennemis, vous devez les aimer. Hein. Si vous devez haïr votre père et votre mère, c'est pas parce que vous devez les haïr, ça veut dire qu'il ne faut pas les aimer eux et haïr les autres, il faut eh bien, changer cette logique clanique. Hein. Et universaliser l'amour. Et Jésus, qui a parfois des paradoxes évidemment dans sa manière de parler, dit, eh bien, celui qui n'abandonne pas tout pour me suivre, moi, me préférer à tout, et qui ne haït pas son père et sa mère, ne hait pas son père et sa mère pour me suivre, eh bien, n'est pas digne de moi. Alors parfois on comprend très mal cette parole, mais je crois que le contexte nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Le Nouveau Testament, évidemment, va dans cette ligne. On a déjà parlé de la cinquième demande du pater dans le cours précédent. Pardonne-nous nos offenses, au sens de remets-nous nos dettes, hein, comme nous remettons à ceux qui nous ont, qui nous doivent, etc. Et, bon, je n'insiste pas puisque j'en ai un peu parlé. Il y a inversion, donc, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. On voit que là, la miséricorde va très loin. Et, la métaphore du salut est aussi une métaphore très importante pour saint Paul. Hein. Nous sommes esclaves du péché et le Christ nous rachète. Il nous rachète comme on rachète un esclave. Et il y a beaucoup de formules chez saint Paul où le rachat du goël, c'est un concept aussi du droit juif, hein, est très important. Voilà, donc il y a vraiment de la miséricorde dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors je m'interroge, le surmoi freudien, base de la morale. Présentation classique du surmoi freudien. Dans une présentation classique, on vous dira que l'enfant est attaché à sa mère, quel que soit donc son sexe, l'enfant garçon, l'enfant fille, s'attache à sa mère, c'est son objet d'amour premier, et il n'y aura jamais moyen hein, de passer au-delà, d'aller plus profond que cet amour premier par rapport à la mère. Mais lorsque le père apparaît, selon la manière dont on vivait du temps de Freud, hein, le père apparaît un peu plus tard, il ne s'occupe pas des bébés. Hein, quand l'enfant a 3 ans, il commence à s'intéresser à l'enfant. Quand le père apparaît, eh bien la fille et le garçon réagissent très différemment par rapport à cette apparition hein, de la figure du père. Je dis apparition, bien sûr le père était là avant, mais disons il n'était pas un objet d'amour intense parce qu'il n'y avait pas de soin particulier du père par rapport à son enfant. Et lorsque la figure du père apparaît vraiment dans toute sa réalité, si on veut, la fille, par l'alchimie de la différence des sexes, la fille aime aussi son père, hein, elle s'attache immédiatement à la figure du père, tandis que le garçon, lui, eh bien, il se met un petit peu en rivalité avec son père, parce qu'il préfère sa mère, bien sûr, c'est normal, hein. La fille aussi aime bien sa mère, mais quand le père apparaît, elle sent quelque chose qui l'attache aussi à son père, et donc elle est là, un objet d'amour primaire, puis un objet d'amour secondaire, je dirais, entre guillemets, sans difficulté, et le garçon a un objet d'amour primaire comme la fille, et un objet d'amour secondaire, le père, mais avec quelques difficultés. Hein. Or, la fille doit s'identifier à sa mère, et le garçon à son père, donc le père, quand s'identifiant à son père, va devoir s'identifier à quelqu'un avec qui il est un peu en rivalité, en désaccord et pas très attiré comme le sera sa sœur. Or, c'est le père, selon Freud, qui donne la loi. La mère donne l'amour, le père donne la loi. La loi, pas au sens vraiment juridique, bien sûr, mais c'est lui qui sépare hein, l'enfant de sa mère, de l'amour exclusif qu'il a pour sa mère, et donc qui impose la réalité, qui impose des règles, etc. La mère est toujours plus, plus coulante par rapport aux règles, tout ça. Et bon, elle, bon, si on pleure, tout ça, bon, soi-disant, hein, elle fait ce qu'il faut. Voilà, donc ça veut dire que dans l'intégration de la loi, la fille intègre la loi que lui donne le père avec plus de facilité, puisqu'elle aime celui qui donne la loi. Elle l'aime, comme je disais, par l'alchimie des sexes, elle aime celui qui donne la loi. Tandis que le garçon, il n'aime pas trop celui qui donne la loi. Hein. Or, c'est justement à ce moment-là que se constitue le surmoi, ça veut dire l'instance morale, si on veut, hein, au niveau psychologique en tout cas, mais peut-être au niveau humain général, c'est à ce moment-là que se constitue le surmoi. Ça veut dire la voix de la conscience qui dit « tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ça hein. ». Alors ça veut dire que eh bien, la fille entre dans l'acceptation de la règle avec amour, tandis que le garçon accepte la règle un peu plus avec une rivalité, avec une difficulté hein, à accepter. Voilà, ça c'est le schéma freudien, qui à mon avis garde une valeur hein, et qui explique quand même pourquoi assez souvent les gens trouvent que ben, les femmes ont une morale quand même un peu plus laxiste quoi hein, oui enfin oui c'est pas si grave et puis on va réparer ça et puis de toute façon etc. tandis que souvent les hommes ben, ont une rigueur hein, une rigueur qui parfois même n'est pas très humaine etc. voilà. C'est vrai qu'il y a quand même souvent une manière très différente de se situer vis-à-vis de la loi. Hein. Alors bien sûr, si chez le garçon ça rate davantage encore, si j'ose dire, ben on peut avoir un surmoi vraiment obsessionnel, ou bien alors si on rejette la loi complètement, on a un surmoi plutôt pervers, ça veut dire pas de surmoi au fond. Hein. Et voilà, en tout cas, disons, on a observé assez généralement un équilibre intérieur assez différent par rapport à la loi, par rapport à justice et miséricorde justement chez les hommes et chez les femmes. Alors est-ce que ça vaut encore pour aujourd'hui? Beaucoup de gens se sont posé la question, mais est-ce que Freud c'est valable partout et toujours hein? Est-ce que c'est valable partout et toujours? Alors partout il y a tout de suite des chercheurs qui se sont mis au travail et qui se sont posé la question, et tiens, est-ce que dans d'autres civilisations est-ce que ça marche aussi comme ça? Et notamment, très tôt, il y a eu des bouquins comme par exemple l'Édipe africain hein, qui est sorti. Des gens sont allés connaître la culture et puis ils se sont demandé, oui mais l'oncle maternel, là, est-ce qu'il ne joue pas un rôle paternel? Et le père, dans certaines civilisations, n'a pas le même rôle que. Donc, au niveau de les, je dirais, géographiques, on a bien étudié la chose. Mais, je crois qu'au niveau du décours du temps, au niveau du temps qui passe, on ne s'était pas rendu compte aussi que la situation de Freud était une situation qui évolue. Et aujourd'hui, on n'éduque plus les enfants, même en Autriche, hein, là où il a vécu, ni en Belgique, comme le faisait notre arrière-grand-père qui était contemporain de Freud. Et ça change vraiment la donne. Donc il a donné des schémas qui ont une certaine constance, permanence, mais on ne peut pas dire qu'ils sont universels dans le temps et dans l'espace, ils évoluent. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, bien sûr, c'est que les rôles de l'homme et de la femme sont beaucoup plus interchangeables. Et donc beaucoup de femmes font ce que font les hommes, beaucoup d'hommes aussi accomplissent des tâches dites maternelles. Et alors, est-ce que ça veut dire que maintenant on confond tout et qu'il n'y a plus de sexe, que le gender, etc., etc. Bon, alors on sort les épouvantails, attention, hein, bon. Je crois que de toute façon, même si un homme fait une tâche dite plus féminine ou inversement, hein, si Madame Thatcher ou Madame Merkel fait une tâche dite plus masculine, de toute façon, ils sont capables sans doute de faire très bien cette tâche l'un et l'autre, mais le style sera toujours différent. La manière de faire sera toujours différente. Ils réussiront tous les deux à le faire, ou ils rateront tous les deux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont hommes ou femmes, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et avec leur style, je crois que c'est plus une question de style, de manière, hein, et bien là, on continue à reconnaître, évidemment, une différence, et une différence qui, au fond, c'est une complémentarité. Mais on a souvent conçu la complémentarité comme écoute, toi tu sais pas faire ça, donc je le fais, hein, et moi je sais pas faire ça, donc tu le fais. Mais ça, c'est une répartition du travail un peu simpliste, sans doute, hein. Mais je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toute tâche, hein, pratiquement, eh bien, l'un peut la faire comme l'autre, mais la manière de faire est très différente. Et d'ailleurs, quand un homme et une femme travaillent ensemble à une même tâche, qu'elle soit masculine ou féminine, eh bien, il y a une espèce de dialectique de promotion, je dirais, qui s'enclenche. Hein. Chacun aidant l'autre à le faire à sa manière, mais en l'aidant l'autre, grâce à ma manière, j'aide l'autre à le faire à sa manière, etc. Il y a quelque chose là qui est peut-être très beau et encore à mettre en évidence et à potentialiser davantage. Excepté évidemment la gestation. Hein. La gestation, la grossesse, bon, en tout cas jusque maintenant, je ne parle pas de l'avenir bien sûr, je n'ai aucune opinion là-dessus pour l'instant, hein, mais pour l'instant en tout cas, voilà, la gestation est sans doute une chose qui marque encore une grande différence. Alors tout ça fait que par exemple, lorsque les enfants s'attachent maintenant de manière aussi aussi profonde à leur papa, si leur papa les soigne tout bébé, etc., qu'à leur maman autrefois, et inversement, hein, les mamans, eh bien, parfois n'ont pas le temps de le faire, et puis quand elles arrivent, c'est elles qui font un peu le rôle du père, ça veut dire qu'ils disent la loi, qui, bon, donc voilà, les rôles se répartissent différemment, mais c'est surtout le style qui compte. Et donc il peut y avoir d'autres types de richesses ou d'autres types de troubles qu'autrefois. Hein. Le lien d'attachement de l'enfant au père et à la mère, eh bien, elle peut être aussi profond d'un côté que de l'autre, et il n'y a peut-être plus, comme avant, cet objet d'amour primaire, comme disait Freud, et puis secondaire, hein, les choses sont peut-être plus lissées. Mais aussi, ça veut dire que, par exemple, en cas de divorce ou en cas de séparation, etc., il peut y avoir des angoisses ou des traumas d'attachement qui se font de la même manière par rapport à un parent comme par rapport à l'autre, alors qu'autrefois c'était peut-être moins marqué. Il y a aussi différents types de familles aujourd'hui, des familles monoparentales, des couples homosexuels, etc. Certains évidemment ont beaucoup de préjugés par rapport à tout ça, puisque nous avons des conceptions classiques, mais elles seraient sans doute à nuancer, et dans le séminaire que nous faisons sur hommes et femmes, nous lisons notamment une partie d'un bouquin qui s'appelle « Nous, enfants d'homo ». Ce sont des témoignages de familles américaines qui, elles, sont déjà à la deuxième ou troisième génération, hein, d'hériter, je dirais, d'un couple homo. Aujourd'hui, bon ben, il n'y a peut-être pas encore beaucoup d'enfants qui peuvent dire que leurs grands-parents étaient des homos, hein, peut-être leurs parents, mais aux États-Unis, oui. Eh bien, c'est très intéressant de lire ce bouquin. Il y a des choses qui sont tout à fait à l'encontre de nos préjugés, et puis il y a d'autres choses qui nous étonnent dans un autre sens, voilà. Alors, la miséricorde, notion plus complexe que la justice, voilà, je situe la miséricorde comme issue, hein, d'un équilibre entre la justice et la justesse. La justesse, c'est quoi? Eh bien, c'est de prendre la bonne place. C'est une notion psychologique, la justesse. Ce n'est pas une loi qui vous dit si vous êtes dans la justesse ou pas. C'est un sentir, un pâtir. Hein. Vous sentez si vous êtes juste dans votre relation avec l'autre et avec tous les autres. Et lorsque le père et la mère sont en bonne relation l'un avec l'autre, eh bien, ça favorise une bonne relation avec les enfants. Donc, toute relation juste, normalement, doit déteindre par justesse sur les autres, et toute relation qui n'est pas juste, même si elle est ignorée ou cachée, risque d'avoir des conséquences sur toutes les autres relations qui sont plus évidentes. Voilà, comme je vois que le temps passe, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais je veux simplement signaler que la miséricorde, on la voit souvent comme le fait de pardonner à un pécheur. Peut-être qu'il faudrait l'enraciner plus profond que cela. C'est un sentiment qui se dirige vers tout ce qui est petit, faible, vulnérable, comme le nourrisson. On apprend la miséricorde, non pas en rencontrant des grands pécheurs à qui on pardonne, mais en rencontrant un enfant qui a besoin d'être soigné. rencontrant un enfant qui a besoin d'être calmé, protégé, en étant un contenant émotionnel, hein, comme Dominique dit souvent, un contenant émotionnel. Un enfant pleure, eh bien, on le prend de manière à ce qu'il sente que son angoisse ne va pas le détruire, mais que la maman ou le papa ou le grand frère ou n'importe qui est capable de contenir, hein, cette angoisse et de l'apaiser en disant que ça ne va pas être fatal, destructeur pour l'enfant. Donc on apprend peut-être plus la miséricorde en ayant ces sentiments maternels. D'ailleurs la miséricorde en hébreu c'est rachamim, ça veut dire les entrailles maternelles. Le mot qui veut dire miséricorde, eh bien c'est un mot très concret comme souvent en hébreu, ce sont les entrailles. Dieu a des entrailles de maman par rapport aux pauvres, par rapport aux pécheurs, par rapport aux malheureux qui crient vers lui. Il a des entrailles. Voilà. La miséricorde donc ne s'oppose pas à la justice. On met souvent en balance, hein, soit vous allez pardonner, soit vous allez punir. Donc, soit vous êtes miséricordieux, soit vous êtes juste. Non, ce qui s'oppose à la justice, c'est l'injustice. L'injustice, voilà l'opposé de la justice. Et il n'y a aucune raison que la miséricorde favorise l'injustice. La miséricorde est une démarche, bien sûr, mais une démarche qui ne fait pas l'économie de la lutte contre l'injustice et de l'exigence de la justice, mais pas seulement la justice stricto sensu. Hein, il y a quelque chose de plus que la justice. Il y a ce sentiment de vouloir protéger ce qui est faible, ce qui est vulnérable, et qui est par exemple la victime de l'injustice. Mais qui est aussi sans doute eh bien, le pécheur dans son ignorance et dans sa destruction de l'autre et de lui-même. Il y a aussi un sentiment de miséricorde vis-à-vis de l'agresseur. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait aussi un sentiment de miséricorde vis-à-vis de la victime, dans le sens de voilà, d'avoir soin de son angoisse, de sa détresse. Et maintenant je vous lis cette page que j'ai traduite du portugais, mais elle vient d'une conférence faite en espagnol, donc tout ça c'est assez compliqué bien sûr, mais c'est très clair. Du point de vue psychosocial, c'est donc Carol Gilligan qui réécrit cela. La référence est sur votre feuille tout en bas. Donc du point de vue psychosocial, dit ce philosophe que j'ai entendu là, Fatima, l'exposant majeur de ce qu'on appelle Caring Ethics est Carol Gilligan. Carol Gilligan, disciple de Kohlberg. Kohlberg, c'est ce disciple de Piaget qui a étudié le développement de l'enfant, non pas le développement cognitif, mais le développement moral. C'est celui qui posait à l'enfant la question, est-ce que c'est plus grave de casser une assiette ou 10 assiettes, hein? Et selon le développement moral de l'enfant, ben, il répondait l'un ou l'autre. Hein? Donc voilà, cette dame est disciple de Kohlberg, mais elle s'en distancie. Elle se fit connaître dans ce contexte par un essai intitulé « In a Different Voice, Psychological Theory and Women Development ». La traduction donc « D'une voix différente ».« D'une voix différente, théorie psychologique et développement des femmes », 1982. Philosophe féministe, cette chercheuse renommée montre comment les femmes dans leur développement moral ne suivent pas exactement les pas des hommes. En cela, elle prend distance par rapport à son maître Kohlberg et fait remarquer que les femmes sont plus préoccupées des relations concrètes, tandis que les hommes sont plus préoccupés des principes généraux. Ça semble être bateau, hein, mais je crois que c'est très profond de le remarquer et surtout de l'appliquer. Elle montre comment les femmes et les hommes tendent à utiliser des stratégies différentes de raisonnement lorsqu'ils affrontent des problèmes. Les femmes tendent à percevoir les dilemmes par priorité dans le champ de l'existence totale et non dans le champ de la position individuelle, de l'implication individuelle par rapport à cette situation. À son avis, l'univers féminin tend à être premièrement un monde de relations et de vérité psychologique dans lequel la confiance du lien entre les personnes permet de reconnaître une responsabilité. Selon elle, les hommes s'orientent plus vers des questions comme l'égalité ou l'inégalité, les principes impersonnels. La perspective masculine ne met pas l'accent sur la relation, sur le face-à-face, mais sur les idées abstraites de justice et sur les droits. Voilà. Carol Gilligan articule une éthique centrée, une caring ethics donc, centrée sur la qualité émotionnelle des actions. L'éthique doit prendre en compte la qualité émotionnelle des actions. Moi, j'avais un professeur de morale qui disait, pour faire de la bonne morale, il ne faut surtout pas d'émotion. Donc, il ne faut pas donner d'exemple concret, parce que sinon, on s'emballe et on ne sait plus raisonner. Voilà. Le soin, la compassion, la connexion sont les piliers de base de l'éthique qu'elle propose. Ce n'est pas une question de logique ni de justice. À la racine, il y a une attitude de se préoccuper d'eux. Voilà, cette contribution importante dans l'éthique du XXe siècle provient du champ du féminisme, mais bien sûr, c'est une capacité qui n'est pas particulière aux uns ou aux autres, elle est une disposition qui est dans la nature humaine comme telle. Parmi les fondements théoriques, ce philosophe disait qu'on peut citer Heidegger, Ricoeur et Lévinas comme étant des gens qui ont un peu ouvert le champ dans cette direction. Et voilà, maintenant je pose une question à Dominique, puisque de temps en temps il m'en pose aussi, alors il faut essayer de la coller. Avec Nagy, le mot justice, qui est plutôt philosophique, était devenu un concept quasi psychologique, le mot justice. Aujourd'hui je viens parler de la miséricorde qui est un concept certainement spirituel et biblique et religieux. Il n'a plus bonne presse aujourd'hui parce qu'on a trop fait miséricorde, dit-on, surtout aux agresseurs et pas, on n'a pas pensé aux autres. Croyez-vous que ce concept de miséricorde peut être acclimaté, lui aussi, en psychologie, et particulièrement en psychologie systémique?
Alors, effectivement, le mot miséricorde n'existe pas en psychologie. Alors, comment on va parler en termes psychologiques de cette expérience de la miséricorde? Et comment on va tenir ensemble miséricorde et justice? Alors, effectivement, on a déjà exploré la notion de justice selon Nagy, mais toujours dans une dimension relationnelle. Alors, que dire de la miséricorde dans un langage psychologique? Lors de l'année de la miséricorde, il y avait eu un cours du soir ici sur cette question de la miséricorde, et effectivement j'ai beaucoup entendu dans le langage théologique parler de la miséricorde comme les entrailles, le sein maternel, l'amour fidèle jusqu'au bout, la compassion, la tendresse, voilà ces notions-là. Mais ce qui m'a frappée lors de l'année de la miséricorde, c'est l'importance donnée à l'acte. Alors, ça rejoint peut-être le caring, au corps et à la relation plus qu'au sentiment par le pape François. Et donc je vais choisir cet angle de la relation, en référence à ma formation systémique, pour essayer de parler de la miséricorde comme relation entre personnes. Cette vision relationnelle de la miséricorde m'intéresse aussi parce que j'ai été interpellée par Jean-Paul II, d'abord cité par Caspers. Dans son homélie, le cardinal Ratzinger, à la messe de funérailles de Jean-Paul II, a dit ceci: « Le pape Jean-Paul II a interprété pour nous le mystère pascal comme mystère de la divine miséricorde. Il écrit dans son dernier livre que la limite imposée au mal est en définitive la divine miséricorde. La limite imposée au mal, c'est la miséricorde de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire en psychologie? Est-ce que la miséricorde peut arrêter le mal? Quel mal? Et comment? Alors, Philippe Cochineau, qui est un dominicain, dans son petit livre sur la miséricorde, dit ceci: « Par le don de sa miséricorde, notre Dieu nous protège, nous encourage, nous accompagne, nous relève et surtout nous aide à nous reconstruire. En ce sens, il fait justice en nous justifiant. » En d'autres termes, nous pourrions dire que la miséricorde est l'accomplissement de la justice. En effet, une justice sans miséricorde est une justice cruelle, mais une miséricorde sans justice est une miséricorde permissive et sans fondement. L'un ne peut donc aller sans l'autre. Lorsque nous recevons la miséricorde, celle-ci participe à une recréation, un retour à la vie. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan psychologique relationnel? Quelles expériences relationnelles de miséricorde nous ont aidés à devenir plus justes? Ça, c'était la question sur laquelle j'ai travaillé en 2016 pour le cours du soir. Mais aujourd'hui, je ne peux me limiter à cette question qui en appelle une autre. Pourquoi miséricorde et justice se sont-elles dissociées dans l'Église-institution et dans notre société? Est-ce que justice et miséricorde, c'est une alliance psychologique impossible? Au vu des événements dénoncés par les médias ces dernières années, on peut se poser les questions suivantes. Comment faire pour ne pas séparer justice et miséricorde pour tous les êtres humains concernés par un mal, les coupables et les victimes? Pourquoi est-ce que l'Église a privilégié la miséricorde envers les coupables plutôt que la miséricorde envers les victimes? Est-ce qu'il y avait une naïveté psychologique, une croyance que la miséricorde allait rendre plus justes les coupables? Il y a eu sans doute une méconnaissance de ce qu'est une perversion sur le plan individuel et sur le plan systémique, et sans doute une méconnaissance aussi des dégâts pour les victimes. Mais pour comprendre ce qui se passe dans l'Église, on peut utiliser plusieurs angles de vue. Et si on repart de l'histoire du mythe de l'Église et du mythe de notre société, on peut peut-être ouvrir des chemins thérapeutiques pour essayer de réfléchir à notre institution malade, dont nous faisons tous partie, je suppose ici. Alors, avant 1968, dans les congrégations religieuses et dans l'Église, je pense que la relation à la loi, à la règle, n'aidait pas l'individu à devenir une personne. Alors, c'est un peu dur ce que je dis, mais je me base sur des témoignages, je me base aussi sur des films comme La Passion d'Augustine, Au risque de se perdre, Les Innocentes. On peut dire qu'il y avait une compréhension de la loi qui n'engageait pas celui qui l'énonçait dans une relation de miséricorde. Alors, ça c'est très important. Je vais donner un exemple pour expliquer. Je pense à un couple dans les années 50. Madame est enceinte de son quatrième enfant et le médecin dit que voilà, il faut un avortement parce que sinon elle va mourir pendant sa grossesse ou en couche. Le père demande l'autorisation jusqu'au Vatican de pouvoir pratiquer un avortement. Cette autorisation lui est refusée, donc il rentre à la maison et il dit « on ne peut pas ». Et puis il reprend sa vie, il reprend son travail. Et madame écrit son journal. Elle meurt en couche et elle a écrit chaque jour, depuis ce moment où on a énoncé l'interdit, un journal terrible où elle s'enfonce dans la dépression et elle va à l'abattoir. Bon. Elle meurt, ce petit garçon, le papa il est complètement dépassé par les quatre enfants, le petit garçon est pris en charge par l'aîné qui quand il va se marier va prendre son petit frère avec lui et ce petit garçon il va mal tourner, il va devenir délinquant, etc. Ce que je veux dire c'est que quand on énonce une loi, pour celui qui l'énonce et pour ceux qui décident de la respecter, cela doit signifier un engagement relationnel de miséricorde pour que la loi soit possible à respecter. Énoncer la loi sans cet engagement de miséricorde, ça produit des catastrophes au niveau psychologique. Bon. Et donc après 1968, il y a une révolution, il est interdit d'interdire, en tout cas comme on interdisait avant, il est interdit de culpabiliser. Dans notre société, l'euthanasie et l'avortement sont vus comme des actes de miséricorde. Et les chrétiens sont accusés d'un manque de miséricorde. C'est ce que j'entends en consultation. Les interdits sexuels sont compris comme des lois qui provoquent des refoulements insoutenables en renforçant le risque de clivage et de perversion. Bon. Notre société, dans ses croyances mythiques, croit que c'est miséricorde de libérer l'être humain de toutes ces lois qui le détruisent. On est entré dans le règne d'une miséricorde sans loi. Et les victimes de ce système ne sont peut-être pas encore toutes conscientes du mal qui les détruit. Ça commence quand même cette conscience dans l'Église, et ça pour moi c'est un bien qu'on puisse en parler. Mais donc une famille, une communauté religieuse qui se fonde sur une miséricorde sans loi va dériver vers un système relationnel qui est fait d'emprise, de manipulation, de séduction et de rapport de force. Alors, comment on va avancer en tenant ensemble miséricorde et loi? D'abord, c'est impossible dans une relation à deux. Il faut toujours du tiers et des tiers pour que la personne en position d'autorité soit perçue comme obéissant elle-même à une loi qui la transcende et qui l'engage, qui n'est pas une loi qu'elle impose à l'autre, mais qui l'engage totalement dans ses propres relations. Troisième point, miséricorde et vulnérabilité. Donc les deux textes que j'ai cités de Jean-Paul II et de Cochineau parlent d'une miséricorde qui, après un mal, ouvre la possibilité d'une recréation, d'une vie nouvelle et plus juste. Alors, est-ce qu'il faut vraiment un mal commis ou subi pour recevoir de la miséricorde, hein? Si nous sommes vivants, est-ce que ce n'est pas grâce à cette miséricorde maternelle dont parle l'Ancien Testament quand on parle des entrailles, de la compassion, etc., que nous avons tous reçu, parce que sinon on ne serait pas vivants aujourd'hui, en tout cas suffisamment pour ne pas mourir. Nous avons tous fait l'expérience de notre fragilité humaine lorsque nous étions bébés et de notre besoin des autres. Et nous ferons tous cette expérience lorsque nous serons mourants. En pédopsychiatrie, on sait que les expériences de tendresse, d'empathie, d'apaisement des émotions, de contenance émotionnelle reçues par le bébé, par l'enfant, vont lui permettre de donner assez spontanément ce qu'il a reçu lorsqu'il deviendra lui-même parent. Mais on sait aussi qu'à l'inverse, des enfants qui ont été victimes de carences affectives et qui n'ont pas vécu ces liens sécurisants d'attachement à l'aube de leur vie auront beaucoup de mal à donner existence aux autres et à donner cette empathie aux autres. Ils vont avoir tendance à éviter la fragilité à tout prix, à vouloir contrôler l'autre, à vouloir le manipuler, etc. parce qu'ils ont du mal à avoir confiance dans les autres. Et donc, pour pouvoir accepter d'être fragile et ne pas essayer de contrôler les autres, il faut avoir confiance dans le fait que l'autre ne va pas nous maltraiter, nous abandonner, etc. Et donc l'instinct maternel, ça n'existe pas en soi. Cela dépend de ce qu'on a reçu, hein, et on n'est pas égaux par rapport à ça. L'instinct maternel est le fruit d'une expérience de miséricorde reçu dès le sein maternel et dès la naissance et qui s'est intériorisé dans toutes nos dimensions corporelles, émotionnelles, langagières, intellectuelles, etc. Ce qui permet, c'est le fait de l'avoir reçu qui va permettre de la donner. Alors, si on ne l'a pas reçu, on peut quand même la construire, mais ça va demander un véritable travail de prise de conscience et de liberté. Donc l'amour reçu peut nous rendre plus justes dans notre relation, plus juste dans le sens de justesse, d'occuper la bonne place, celle qui permet de construire une relation au sein de laquelle on n'a pas peur d'être fragile et on peut exister même si on est fragile. Donc on décrit ici une miséricorde comme un don relationnel de type maternel qui construit une loyauté, c'est-à-dire la possibilité de donner à la génération suivante ce qu'on en a reçu. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu ça, respecter la loi rend encore plus vulnérables ceux qui ont le moins reçu de miséricorde. Respecter la loi quand on est dans un traumatisme grave, c'est souvent accepter de souffrir encore plus. Et ça n'a de sens que si l'on reçoit encore plus d'amour et encore plus de liens fiables à ce moment-là et qui permettent de construire ce qu'on a appelé la légitimité constructive. Alors seulement la souffrance peut être traversée à ce prix de liens d'amour qui la permettent. Par exemple, c'est impossible de renoncer à un désir d'euthanasie sans lien d'amour qui suscite un désir de vivre encore malgré la souffrance. La vulnérabilité ne peut pas se vivre sans lien d'attachement fiable. On peut renoncer à tout contrôler, contrôler sa mort, à contrôler sa grossesse, à contrôler... On peut lâcher prise, renoncer au désir illusion s'il y a des passeurs d'angoisse qui nous aiment et qui nous accompagnent. C'est impossible de respecter la loi, je parle de la loi de l'Église, tout seul au cœur des traumatismes. Nous sommes donc responsables les uns des autres. La vulnérabilité peut être donc l'expérience fondatrice de la miséricorde et de la justice si elle se vit dans une relation d'amour à des passeurs d'angoisse fiables, capables de respecter la loi et d'accompagner la souffrance. Donc à ce moment-là, vulnérabilité et miséricorde ensemble aident à ne pas commettre un mal qu'on a envie de commettre pour moins souffrir. Alors, justice et miséricorde dans l'éducation. Le maternage ne suffit pas pour aider un enfant à devenir juste. Il doit apprendre la loi, comme nous a dit Bernard, le respect de l'autre. Est-ce que c'est le rôle du père? La mère consolerait et le père punirait. Si ça se passait ainsi, le pauvre papa se sentirait vite mal, prisonnier d'un rôle de grand méchant loup. Alors, est-ce qu'on peut éclairer la relation entre justice et miséricorde en regardant comment fonctionne un couple de parents, hein? Alors, je pense que Bernard, pourtant, avait raison quand il disait que le père a quelque chose à voir avec la loi, parce que s'il n'y a pas de père, la mère risque effectivement d'être dans quelque chose de beaucoup trop fusionnel avec l'enfant. Mais n'empêche que je pense que c'est plus la relation entre les deux parents qu'une des personnes qui va garantir que la loi soit respectée. Par exemple, à 3 ans et demi, si un enfant tape son petit frère, quelle est la relation de justice et de miséricorde qui va l'aider à devenir plus juste? Si on commence à consoler l'enfant parce qu'il est en colère et qu'il est jaloux et qu'on le comprend et que c'est pas facile d'avoir un petit frère, etc., ça ne va pas le rendre plus juste, hein, parce que le petit frère, il va vivre ça comme une injustice d'abord, hein. Alors, on n'est pas dans la justesse si on n'est pas dans une justesse par rapport à toutes les personnes de la famille, hein. Une relation est juste si elle est juste pour tout le monde, pour chaque personne concernée. Bon, par contre, si on se contente de punir l'enfant et de le mettre au coin ou dans sa chambre, etc., et qu'on s'arrête là, eh bien ça va pas aller non plus, parce que ça va renforcer sa colère, ça va renforcer sa jalousie, ça va renforcer dans sa conviction que le petit frère est plus aimé que lui, etc., et donc ça va pas l'aider non plus. Et donc comment un père et une mère vont faire alliance ensemble pour en même temps montrer qu'on comprend l'enfant dans sa jalousie, que c'est pas facile, que tout le monde a des colères, mais qu'on peut pas exprimer sa colère n'importe comment, et qu'en tout cas il a pas le droit de frapper son petit frère? Comment est-ce qu'on va mettre tout ça ensemble, et comment on va apprendre au petit frère de pas provoquer le grand, etc., pour que chacun soit à la bonne place? Alors, dans le film qu'on a vu mardi, pour certains d'entre vous, je pense que c'est intéressant aussi, c'est pas dans les questions qu'on a prévues, mais c'est peut-être intéressant aussi d'observer comment ce couple de parents vont travailler entre eux pour, quand même on peut dire qu'ils sont dans la miséricorde, mais ils essayent de construire quelque chose de juste aussi, et puis c'est pas toujours juste, et puis comment ils collaborent ensemble par rapport à cette question qu'on travaille aujourd'hui. Alors, cinquième point, qu'est-ce que c'est le mal en psychologie? Et comment l'expérience de la miséricorde peut arrêter le mal? Alors, pour comprendre comment le mal est vécu par notre psychisme, je vous renvoie, pour ceux qui l'ont, à notre livre. Le chapitre 3 est consacré à cette problématique du mal. C'est un long chapitre, donc ici je vais reprendre certains points de ce chapitre, mais bon, très peu par rapport à ce qu'il y a là. Donc évidemment, pour un psychiatre, le mal tel qu'il s'entend en consultation, c'est toujours « j'ai mal ». Hein, si on va consulter un médecin ou un psychiatre, c'est parce qu'on a mal. Hein. J'ai mal dans la relation à moi-même, j'ai mal à mon couple, j'ai mal à mes enfants, je fais du mal sans le vouloir. Le mal s'exprime toujours dans une expérience relationnelle à soi-même ou aux autres. Mais à y regarder de plus près, on constate que je peux avoir mal sans que personne ne me fasse du mal. Hein, ça, c'est ce qui se passe dans le développement de l'enfant. Il doit subir des privations, il doit subir un petit frère qui naît, il a la jalousie, etc. Personne ne lui fait du mal et pourtant il souffre. Hein? Donc on peut avoir mal et que personne ne nous fait du mal. Je peux ne pas avoir mal alors qu'on me fait du mal ou que je me fais du mal. Hein? Par exemple, si je bois de l'alcool, je me sens mieux, ça me console, ou si je quitte mon conjoint, je me sens enfin en paix, enfin soulagée, on ne se dispute plus, quel bonheur. Voilà. Mais donc on peut casser des relations ou avoir des comportements qui nous font du mal ou qui font du mal à l'autre sans souffrance. Je peux avoir mal et m'écrouler à cause d'un mal subi, dévastateur. Les traumatismes, on en parlera la semaine prochaine. Et je peux faire du mal en croyant faire du bien, notamment dans l'erreur psychologique dont Bernard a déjà parlé. Je peux gâter mon enfant en croyant que je lui fais du bien, alors que, en fait, voilà, je ne lui apprends pas à ne pas se noyer dans les frustrations. Donc l'expérience subjective « j'ai mal » n'est pas suffisante pour construire des représentations justes du mal et du bien sur le plan relationnel. On a besoin aussi d'entendre l'autre pour percevoir avec plus de justesse si les relations construisent du bien ou du mal. Là, on en a parlé la semaine dernière avec Nagy. Mais dans notre culture individualiste, on a perdu cette habitude de penser les choses en termes de représentation de relations. Et on est plutôt dans, j'entends très souvent, une autoréférence. Non, je sens bien que c'est bien ou je sens bien que c'est mal. Hein, on parle du ressenti de ce qui est bien, de ce qui est mal pour moi, etc. Alors, je vais donner un exemple qui vient retoucher à quelque chose dont on a déjà parlé, les angoisses de séparation. Donc vous vous souvenez, ce sont ces angoisses que le bébé vit à partir de 8 mois. Le bébé qui pleure quand on le dépose à la crèche. Et grâce au fait que l'enfant est obligé de se séparer à certains moments de sa mère ou de son père, il va pouvoir, en traversant cette angoisse, construire des représentations des personnes qu'il aime à l'intérieur de lui. Il va construire des images mentales. Donc, vous vous souvenez, il n'y a pas de vie intérieure sans cette traversée de l'angoisse de séparation. Mais trop de séparation ou trop peu vont produire une carence de, de cette vie intérieure et de cette capacité de représentation. Alors on va prendre l'histoire d'une famille où on va voir comment miséricorde et justice vont se combiner et comment toute la famille va travailler cette question des angoisses de séparation pour que chacun retrouve une place plus juste. Donc j'ai mis le génogramme au tableau. Simon a 11 ans, il souffre d'angoisse de séparation, il ne veut pas partir en classe de neige avec sa classe. Le soir, il n'arrive pas à quitter ses parents et il ne peut s'endormir que si sa mère dort avec lui. À 11 ans donc. Hein. Simon est angoissé depuis l'âge de 3 ans, mais ses parents ont cru que ça allait passer parce qu'en fait, ses angoisses ont commencé alors qu'il y avait il y a eu un traumatisme. En fait, quand Simon avait 3 ans, il prenait le bain avec son petit frère qui a fait un état de mal épileptique. Il a été sidéré de panique, il n'a pas su appeler à l'aide et le petit frère a failli mourir. Bon, il n'est pas mort, la maman est arrivée et voilà, il a été soigné. Mais depuis lors, il est collé à sa mère et il se sent très coupable, il a très peur de la mort. Alors je demande aux parents s'ils ont eux-mêmes des angoisses et madame se met à pleurer en disant « ben voilà, heureusement que vous me posez la question, mais j'osais pas le dire, mais en fait j'étais soulagée que Simon ne parte pas en classe de neige, j'ai très peur de la mort de mes proches et voilà, depuis cette crise d'épilepsie, c'est vrai que je veux plus que mes enfants aillent ailleurs, etc. Je veux les surveiller tout le temps. » Donc elle est dans cette croyance magique que tant qu'elle est là, il n'arrivera rien à ses enfants, hein, qu'elle pourra les sauver. Et puis je demande aux parents et à Simon, c'est quoi la mort pour eux? Et Simon me dit, c'est le néant, après quand on meurt, il n'y a plus rien. La maman dit « Oui, moi aussi, je crois que quand on meurt, on tombe dans le néant. » Et le papa dit « Moi, j'en sais rien. S'il n'y a rien, je ne le saurai pas de toute façon. Mais s'il existe une autre vie, c'est qu'il existe un être supérieur qui forcément est bon et donc je n'ai pas peur. » Alors, je demande si Simon a déjà vécu le décès d'une personne proche, parce que parfois les angoisses de séparation sont liées à des morts dans la famille. Et le frère de la mère est décédé l'an dernier. Simon ne le voyait jamais, il n'en est pas du tout affecté, mais madame est très, très marquée par ce décès, elle y pense tous les jours, parce qu'elle ne voyait plus son frère suite à un conflit entre sa belle-sœur, donc la femme de son frère, et sa mère. Et donc elle avait pris le parti de sa mère et elle ne voyait plus son frère depuis des années. Mais après le décès du frère, la belle-sœur et la mère de madame se sont réconciliées et madame a trouvé ça scandaleux. Madame ne veut plus voir sa belle-sœur et elle dit « c'est trop facile, c'est trop tard, à cause d'elle je ne verrai plus jamais mon frère et puis c'est elle qui nous a séparés, c'est quand même trop simple d'aller se réconcilier après avec sa belle-mère, etc. » Et alors je lui dis « mais au fond vous ne voulez pas la revoir au nom d'une certaine justice. » Elle me répond oui, parce qu'elle a déjà essayé de reprendre les relations avec moi, mais moi je me sens trop coupable de ne pas avoir revu mon frère et je suis en colère et voilà, je ne veux pas. Alors je lui dis, mais écoutez, c'est important de réfléchir à la justice, mais peut-être que vous devriez réfléchir aussi à une façon d'exercer la justice qui vous ferait du bien à vous pour sortir de la culpabilité, de la colère et de l'angoisse. Hein, parce que je ne suis pas sûre que la solution que vous avez imaginée soit une solution qui vous apaise. Et ensuite, je m'adresse à Simon et je lui dis, tu vois, Simon, ta maman, elle se sent coupable, elle a des angoisses de séparation comme toi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Vous avez chacun votre travail à faire pour vous en sortir. Et papa peut vous aider tous les deux puisqu'il n'a pas d'angoisse par rapport à ça. Mais toi, tu vas laisser maman faire son travail et tu vas faire le tien. Alors, l'histoire de Simon fait penser évidemment à ce que Nagy nous raconte quand il nous montre comment fonctionne l'éthique relationnelle d'un point de vue clinique. Il postule que chaque être fonctionne avec une quête de justice qui concerne l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu dans nos relations affectives. Nous estimons que certaines personnes nous doivent quelque chose et nous ne voulons pas toujours effacer cette dette. On a vu ça la semaine dernière. Et parfois, nous présentons la facture de cette dette à d'autres personnes qui ne sont pas concernées, mais à qui nous réclamons notre dû. Au nom de ce que lui doit sa belle-sœur, Madame essaye de rétablir la justice en coupant la relation. Mais cette solution, qui équilibre sa balance de justice intérieure par une sorte de vengeance, produit néanmoins des angoisses. Et en prenant conscience de ça, en fait, Madame a pu réfléchir à d'autres chemins moins destructeurs pour les relations familiales et qui peuvent quand même être justes pour elle et pour sa famille. Voilà. Alors, en conclusion, on va arriver au troisième point. Qu'est-ce que la psychologie peut nous apprendre sur le chemin à parcourir entre l'expérience de recevoir de la miséricorde et celle de devenir libre et capable d'en donner? Alors, on a vu que la capacité de prendre soin d'un bébé se construit comme spontanément chez quelqu'un qui a reçu tous les soins et l'amour nécessaires dans sa vie de bébé. Le lien entre ce qui a été reçu et ce qui se donne se fait alors quasi inconsciemment. Mais pour le mal aussi, l'inconscient peut conduire à des actions qui nous dépassent. Et c'est parfois en faisant du mal à un enfant qu'un parent prend conscience du mal qu'il habite et dont il ignore l'origine. C'est parfois en disant « mais pourquoi j'ai fait ça à cet enfant ?» qu'on prend conscience du fait qu'on a été maltraité. D'où l'importance d'un travail psychologique qui permet de rendre conscient ce mal qui nous habite tous plus ou moins. Un travail psychologique individuel ou relationnel qui permet des prises de conscience, permet aussi de faire grandir la liberté et pourquoi pas le désir de donner à d'autres non seulement ce qu'on a reçu, mais aussi d'essayer de donner ce qu'on n'a pas reçu. Parce que quand on fait cette expérience de pouvoir donner ce qu'on n'a pas reçu, il y a quelque chose qui guérit dans ce manque et dans cette blessure qui a été creusée par le fait qu'on n'a pas reçu. Alors, pour terminer, je vais vous raconter encore une petite histoire. C'est une histoire de Laetitia qui n'a pas reçu de ses parents la sécurité affective dont elle avait besoin. Et donc, Laetitia a 30 ans quand elle arrive pour ce qui va se passer maintenant, mais je l'ai connue à l'âge de 16 ans quand elle faisait une dépression très grave et qu'elle avait fait une tentative de suicide. Elle a dû être hospitalisée durant plusieurs mois à ce moment-là. Je l'ai ensuite suivie à sa sortie en psychothérapie pendant 3 ans. Donc à 30 ans, elle est mariée, elle travaille. Elle vient me voir parce qu'elle est enceinte de 3 mois et qu'on lui a dit qu'elle allait peut-être perdre son bébé, que son bébé ne va pas bien. Elle est très angoissée, elle a peur de craquer. Elle dit « si je perds ce bébé, je vais recommencer une dépression ». Elle ne dort plus. Ça fait plusieurs années que le couple essaye d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Et donc voilà, cet enfant était très très fort attendu. Et là, elle me dit que depuis qu'elle sait que ce bébé est fragile, elle essaye de ne pas s'attacher à ce bébé, elle essaye de se dire qu'il est déjà mort, et elle se dit que ce n'est pas encore un enfant de toute façon, et que si elle arrive à se détacher, elle souffrira moins. Mais ça ne marche pas. Je lui dis que la manière dont elle essaye de se protéger ne fonctionne pas, et que ses angoisses démontrent qu'il y a peut-être un autre chemin plus juste à trouver. Je lui dis, ce bébé, vous y êtes attaché, depuis bien avant qu'il ne soit conçu. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'existait pas, comme si vous ne l'aimiez pas déjà depuis très longtemps. Ça provoque des angoisses parce que vous savez bien que vous l'aimez déjà. C'est très dur de perdre un bébé qu'on aime. Mais le fait d'avoir tout fait, d'avoir fait tout ce qu'on a pu pour montrer son amour, peut parfois aider à ne pas s'effondrer. Est-ce que vous pourriez faire sentir à votre bébé à quel point vous l'aimez ? Il est très fragile, il est très malade, il a besoin de sa maman. Si vous voulez, on peut essayer ensemble. Alors, si je renvoie ça à Laetitia, que son désir de couper la relation est pour se protéger et qu'elle a du mal à oser se lancer dans une relation de miséricorde et de compassion pour ce bébé, je peux le faire parce qu'elle a déjà, dans son travail de psychothérapie, pris conscience de ça avec moi, et donc je fais appel à des choses que je sais qu'elle sait et qu'on a déjà travaillé. Mais sinon, ça pourrait être très violent, évidemment, hein, ça pourrait être perçu comme un jugement. Et donc Laetitia accepte et on commence ensemble à parler à ce bébé et elle arrive à lui dire en pleurant beaucoup mais voilà tout son amour et le désir qu'elle a qu'en fait ce bébé vive. Et donc on fait ça pendant plusieurs séances, elle s'apaise et bon après quelques temps elle revient et en fait son bébé ne meurt pas et il continue à bien se développer. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit « C'est bizarre, je me sens de mieux en mieux. » Et en plus, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai rêvé que mon amie Pascal, avec qui elle était en conflit depuis des années, était à Zaventem lors des attentats. Et je l'appelais, elle était blessée, j'allais la voir et je me réconciliais avec elle. En fait, Laetitia ne voyait plus son amie Pascal depuis plusieurs années parce que son amie avait raconté à toutes les copines à l'école qu'elle avait été hospitalisée en psychiatrie et donc elle ne lui avait pas pardonné ça. Et alors Laetitia me dit, eh bien le lendemain de ce rêve, j'ai pris mon téléphone, je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit que je voulais la revoir et lui pardonner. Elle était très touchée et on va se revoir bientôt. Et elle me dit, vous savez, je crois que c'est grâce à mon bébé que j'ai pu faire ça et que j'ai pu rêver ça. Quand on devient maman, on doit apprendre à pardonner. Et d'ailleurs, ça va mieux aussi avec mes parents, grâce à mon mari qui m'a beaucoup aidée. Et je crois vraiment qu'ils seront des bons grands-parents. Et donc, je veux leur donner une nouvelle chance. Et ça va même mieux avec ma belle-mère. Voilà. Donc, mais l'histoire de Laetitia n'est pas une histoire unique. Hein. Je pense vraiment que... Enfin voilà, ça c'est une des joies de mon métier, de voir que certaines personnes arrivent à donner ce qu'ils n'ont pas reçu et qu'ils font dans cette expérience de donner ce qu'ils n'ont pas reçu, ils reçoivent ce qui leur a tellement manqué. Donc l'éthique relationnelle de Nagy n'est pas une loi du donnant-donnant.